Bonjour à tous, si on jette un regard sur toute l'histoire de l'humanité, on ne peut pas nier qu'elle est essentiellement constituée de saloperies, hein, comme les guerres, la famine, les tremblements de terre ou évidemment les films Netflix qui quittent le catalogue juste le soir où on avait décidé de les regarder. Mais heureusement, de temps en temps, il existe des vrais moments de bonheur, comme la domestication du feu, la Renaissance et bien sûr la PlayStation 2. Et bien ce soir, nous vivons un moment de ce genre, puisque j'ai la joie de vous annoncer que les Américaines sont de retour. Après 9 mois passés à Los Angeles, évité de Paul Big One, les revoilà pour la meilleure émission de l'histoire d'Internet. Mesdames, vous êtes bien dans le podcast où on est ravis de vous revoir, et aussi sur l'actualité du cinéma vu par des scénaristes. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 30. C'est donc avec ma fine équipe au complet qu'aujourd'hui nous parlerons du remake country de A Star Is Born, j'ai nommé Wild Rose, du remake du Roi Lion version image de synthèse et du remake de la pire comédie que vous ayez jamais vue avec Le Coup du Siècle. C'est Guillaume au micro et pour parler de tous ces films, j'ai autour de moi ma petite équipe d'amour. Que dis-je, ce qui manquait à mon âme pour être enfin heureux, mes américaines. Je souhaite donc un agréable retour à Sarah. Non, Sarah n'est pas là. Mais c'est pas grave, puisqu'on a Camille. Non, pardon, non, elle n'est pas là non plus. Excusez-moi, c'est les aléas du différé. Ni Rumix, ni Armand ne sont là non plus. Bon, bah, c'est ce qu'on appelle un suicide radiophonique. Mais c'est pas grave, puisque j'ai mon équipe de parisiennes, à savoir Marie et Fiona. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil, et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie, et se verra retirer la parole. Immédiatement, on commence avec Le Roi Lion, écrit par Jeff Nathanson et évidemment très très inspiré du scénario du Roi Lion sorti en 1994. C'est Fiona qui nous le pitch.
Alors ce pitch est pour toi, cher ami qui a passé 25 ans dans une cave, qui n'a jamais vu Le Roi Lion ni jamais lu Hamlet. Simba, un petit lion, est destiné à régner sur la terre des lions et ça tombe bien car Simba voudrait déjà être roi. Seulement, il n'est pas le seul. Son oncle Scar ziote également sur le trône, ou en l'occurrence le rocher des rois. Il décide donc de faire appel à ses sbires, les hyènes, et ce, bien qu'il n'a jamais cru les hyènes essentielles, les jugeant frustres, ignobles et infectes. Mais elles représentent un suprême potentiel conjugué à son puissant intellect. Ainsi, Scar organise un guet-apens où Mufasa, le père de Simba, trouve la mort et Simba fuit la terre des lions. Scar ordonne à ses hyènes de tuer Simba, mais comme elles sont frustres, ignobles et infectes, elles le laissent filer. Simba, se sentant responsable de la mort de son père, n'ose pas revenir et vit comme un paria dans la jungle avec ses nouveaux amis Timon et Pumba. Les trois amis n'ont qu'un mantra, Hakuna Matata. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. En revanche, pendant ce temps, sur la terre des lions, les lionnes se meurent ce soir. Nala décide de partir chercher de l'aide et trouve Simba, son ancien meilleur ami. Les deux lions se retrouvent et l'amour brille sous les étoiles. Enfin non, l'amour brille sous le soleil de l'après-midi, parce que c'est tout aussi romantique apparemment. Mais ce moment de tendresse passée, Nala doit convaincre Simba de ne pas oublier qui il est et d'aller affronter Scar pour reprendre sa place du roi lion.
Heureusement qu'on a dit que c'était spoil, parce que Mufasa est mort. Là, je ne l'avais pas vu venir. Marie ?
Eh bien, oui, je trouve que c'est effectivement... Sans surprise, tout pareil que le Roi Lion de 1994. Alors, il y a quelques semaines, on a parlé dans ce podcast de Aladdin, où il y avait quand même pas mal d'aménagements par rapport au dessin animé. On avait relevé toutes les modernités du scénario, tous les apports et tous les manque par rapport au scénario original. Bon là, ça va aller très vite. Disons qu'il y a quelques répliques en plus, mais grosso modo, c'est exactement le même film. Parfois, j'avais l'impression d'entendre les mêmes... Alors, j'étais le voir en VO, donc c'était un petit peu différent de mon souvenir, mais de voir les mêmes scènes, les mêmes cadrages, les mêmes répliques. Le scénario... j'aimerais bien savoir, d'ailleurs, Guillaume, est-ce que ce scénariste que tu as cité, est-ce que c'est le même que le précédent opus ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, non, ils ont repris.
Il a fait quoi ? C'est-à-dire, à combien ? Je veux dire, il a pris le scénario original, il dit, bah, alors, tiens, là, on va rajouter une vanne. Ah, là, on va mettre une autre. Oh, ça, cette phrase était un petit peu trop longue.
Le film dure 25 minutes de plus que le dessin animé.
Mais ça c'est Fiona qui me l'a dit, et je ne l'avais pas vu, et je ne vois pas où sont passées ces 25 minutes d'ailleurs.
Mais ça c'est pas grave, c'est une adaptation. Qu'est-ce que t'as pensé?
Non mais parce que je ne vois pas de scène supplémentaire. Je ne vois pas...
Si, il y en a une, typiquement, celle que pour moi qui sert à rien, ce qui gâche la surprise, celle où Nala quitte la tribu des lions pour partir on ne sait pas où, à la recherche de nourriture, elle dit, alors que dans le dessin animé c'était pas comme ça, du coup ça faisait une énorme surprise quand on voyait Pumba se faire poursuivre par un lion et qui fait « Oh mon dieu c'est Nala !» C'est-à-dire que là on la voit partir, bah, ça gâche un peu cette surprise. Ils ont rajouté cette scène où t'as le perroquet, j'ai oublié comment il s'appelle le perroquet.
Zazu
qui distresse Scar.
Oui, qui l'aide à s'enfuir.
Ça c'est typiquement une scène en plus. Oui Fiona.
Justement en fait il n'y a pas de scène en plus et malheureusement...
Je viens de t'en citer une.
Oui non mais... qui n'apporte pas
significative,
qui n'apporte pas grand chose, puisque comme tu viens de le dire, ça amoindrit un petit peu l'histoire, puisque ça amoindrit l'effet de surprise sur cette scène là mais globalement c'est le même scénario en moins bien. Et c'est terrible parce qu'il y a donc 25 minutes supplémentaires, souvent montrées, elles sont là pour montrer les prouesses techniques de cette forme d'animation. On nous montre beaucoup plus de scènes de savane qui sont plaisantes, c'est pas désagréable à regarder, mais ça ne sert pas du tout l'histoire. Et pire encore, je trouve qu'ils ont retiré, parfois ça se joue qu'à quelques secondes, voire 5 secondes, 10 secondes, mais ils ont retiré quelques secondes à des scènes fondamentales. Et du coup, ils ont enlevé un peu d'émotion. Je pense notamment à la scène où Mufasa meurt, qui, moi, m'a fait pleurer toute ma vie. Et je peux revoir une vidéo YouTube juste de ce passage-là. Je vais quand même avoir la voix qui tremble. Et là, c'est la première fois de ma vie que je ne ressens rien devant cette scène. Parce que je pense... Bah, alors, peut-être que c'est dû au fait qu'ils n'ont plus d'expression humaine, forcément.
C'est des vrais animaux, pour le coup.
Dû au réalisme qui a été choisi. Mais en plus, dans le dessin animé, par exemple, Simba lui tire l'oreille, lui dit « Viens, viens, on rentre !» et il ne comprend pas tout de suite qu'il est mort ou ne veut pas le comprendre. Et c'est seulement après qu'il se blottit contre lui et qu'il est désespéré. Et là, on a enlevé, je pense, 5 secondes. Mais n'empêche que 5 secondes, ça jouait à rendre la scène pathétique et terrible et émouvante.
Très bien, Marie.
Alors, je suis d'accord en fait sur le fait que c'est le même film sans l'émotion. Et comme tu l'as dit, Le dessin animé, comme c'est figuratif, ça permet d'avoir vraiment des expressions humaines sur des animaux. Et donc, bah voilà, quand Simba il avait peur, et bah on voyait dans ses yeux un regard humain, finalement, un regard que nous, on reconnaissait, qui était la peur. Quand il retrouvait Nala, on voyait toute la joie, l'amour qui brillait dans leurs yeux. Enfin, voilà, c'était ce qui va de pair avec les chansons, d'ailleurs. Et là, dans ce réalisme-là, et bah, oui, en fait, on voit juste un lion qui a peur, mais un lion qui a peur, ça... Enfin, je veux dire, ça reste un animal. Et en fait, tout le film me paraît être le cul vraiment entre deux chaises, parce qu'ils ont voulu faire quelque chose de très réaliste. Et donc là, on a une prouesse technique exceptionnelle. Et tu l'as dit, c'est magnifique, il n'y a rien
c'est
à redire.
C'est extraordinairement
c'est
beau.
C'est incroyablement beau.
Les scènes des petits lacs où il y a de l'eau qui coule, là où ils sont
si... Tu ne peux pas voir la différence entre la réalité
bien sûr.
Et cette technique.
Voilà, donc il y a à la fois donc c'est la prouesse technique, mais... c'est réaliste, mais en même temps, c'est une histoire avec des animaux qui parlent, des animaux qui chantent,
qui dansent et qui
se font des vannes et qui on aurait eu besoin de ce figuratif supplémentaire pour les émotions, justement, pour les faire passer au public, parce que là on oscille entre les deux. Et alors il y a une scène que j'ai beaucoup aimée. Qui est celle dans la jungle où les animaux dansent un peu entre eux.
Quand Timon et Pumba chantent In the Jungle.
Ouais, je trouvais que ça marchait pas mal. Moi, ça m'a fait sourire. Mais parce que j'ai trouvé que ça marchait pas mal, parce que.
Ben, s'amuse plus.
On s'amuse. Et puis parce que je retrouvais un petit peu mon dessin animé. Et là où tu parlais d'émotion tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a plein de moments dans ce film où j'ai été émue, mais j'étais pas émue parce que j'étais en train de voir, j'étais émue par le souvenir que j'avais de cette scène de quand j'étais enfant, j'étais émue par le souvenir que le dessin animé m'avait laissé.
C'est fait exprès. Hein.
Oui, mais c'est dommage, c'est pas ce que je voyais qui me tirait les larmes, c'était mon souvenir. En plus, j'y suis allée le mercredi de la sortie, enfin, il y avait 3 salles dans mon cinéma, elles étaient toutes complètes, les séances. La salle était vraiment en délire, les gens, ils applaudissaient, ils pleuraient, ils criaient, enfin, c'était du top délire. Je veux dire, tout était fait pour me porter, pour me donner cette émotion. Et pourtant, ce film m'a laissé un petit peu... Je suis sortie là, j'étais... perplexe presque, en me disant j'aurais mieux fait de revoir le dessin animé de mon enfance.
Non, mais je pense que vous dites aussi, mais le problème c'est que c'est plutôt malin ce qu'ils ont fait. Ils avaient une technologie absolument extraordinaire pour faire des images de synthèse où il faut vraiment être un spécialiste pour voir la différence entre des vraies images d'un documentaire et ça. Et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va en faire? On va en prendre un classique de Disney, qui est un des Disney préférés des enfants, avec un scénario déjà très, très simple mais très solide. Et le scénario, on n'en a pas encore parlé, mais il marche parfaitement. Enfin, c'est une tragédie shakespearienne, comme tu disais, qui est simple, qui est efficace, et en plus ils ont ajouté ça une technique merveilleuse. Le seul point faible, comme tu dis, c'est qu'on a du mal à ressentir les émotions des animaux, parce que ils sont tellement réalistes que c'est des animaux.
Mais au-delà de ça, il y a un manque de poésie qu'il y avait dans le dessin animé, ne serait-ce que par le personnage de Rafiki qui était un peu un sage fou enfin c'est bizarre que d'associer ces deux-là, mais ces deux mots, mais c'est vrai que c'était un peu comme un chaman qui sentait avec le vent le retour de Simba. Là, c'est presque là il ressent le vent parce qu'il y a une crotte avec des poils de Simba qui a voyagé jusqu'à lui.
Ouais, mais ça justement, j'ai trouvé ça mieux parce que justement avant c'était comme tu dis, c'était juste un morceau de vent qui arrivait et là. Parce qu'on voit les poils de Simba qui est mangé par une girafe, qui fait caca, il y a une espèce de petit scarabée qui pousse. Là, vraiment, c'est le destin qui a amené ça, ouais, bah, le silicique de la vie dont il parle, qui l'a amené jusque-là.
Cette scène, elle est quand même extrêmement longue et pour pas grand-chose.
Bah, juste pour trouver ces 25 minutes.
Pour montrer, voilà, exactement, il fallait trouver ces 25 minutes. Et pourquoi, en plus, il y a eu des mauvais choix. En plus de ce manque d'émotion, bah, voilà, comme je dis, il manque parfois 5-10 secondes, mais en plus, il y a des mauvais choix parce que quand, justement, bah, on est sur Rafiki, il sort son bâton. Je crois que c'est toi aussi Marie qui l'avait relevé et qui dit mon vieil ami. Bah non, c'est pas ton vieil ami, c'est à la limite notre vieil ami parce qu'on s'en souvient quand on était en 94, mais lui on l'a jamais vu,
c'est
dans
à
le
nous
film.
Qui parle.
Oui, mais du coup c'est beaucoup trop, il y a trop de fanservice, il y a trop de méta. Après les blagues méta, je trouve la réussite de ce film là c'est Timon et Pumba, je trouve qu'ils fonctionnent bien, les répliques qui sont ajoutées marchent bien et pour le coup leur blague méta à eux fonctionne.
Surtout celle que j'ai adorée où Hakuna Matata, on l'a tous entendu des millions de fois, et dans la version originale, il doit faire une rime en et, Pumba, et il dit à chaque fois que je pète, et dans le dessin animé, il l'arrête, Timon. Bah là, il le laisse finir, et là, Pumba fait, mais attends, mais tu m'as pas arrêté ? Il fait, bah non, ça fait 20 ans que je t'arrête, maintenant je te laisse continuer. Là, c'est vraiment méta, parce que ça fait 20 ans qu'on attend qu'il fasse la rime, et là, enfin dans le film, il a réussi à la faire.
Oui,
ça m'a fait plaisir.
Ils le font aussi en disant, t'as pris 200 kilos depuis le début de la chanson.
Oui, ça marche bien. Non, mais ils disent, arrête de chanter cette chanson.
Pour moi, effectivement, t'as raison, je les ai trouvés extrêmement réussis, mais est-ce qu'ils ne sont pas réussis parce que justement, ils sont pas dans le même registre réaliste que les autres. Eux sont dans le figuratif aussi. Parce que tu parlais de poésie, je trouve que toute la partie avec Timon et Pumba dans le dessin animé où finalement on arrivait dans une sorte de rêve, dans cette jungle luxuriante. Pareil quand Nala et Simba se retrouvaient, c'était dans un décor complètement féerique. Et quand tu parlais de Rafiki aussi, Fiona, quand Rafiki retrouve Simba, il y a le nuage qui arrive avec l'image du père, tout ça. Ça c'est un retournement majeur de scénario par la magie. Et comme là on est dans un scénario réaliste, il n'y a plus. On comprend pas très bien, on comprend parce qu'on a vu le film précédent, mais le retournement de veste de Simba à ce moment-là, qui à l'instant d'avant disait non, c'est mort, j'irai jamais sur la Terre de Lion. Bon, d'accord, j'y vais.
Son père fantôme qui lui a parlé, excuse-moi, c'est assez convaincant quand même.
Ça marchait beaucoup.
Pas de père fantôme.
C'est ça marchait très bien dans le dessin animé, là ça marche moins. Et
ah oui, c'est vrai que t'as raison, on voit pas son père fantôme,
non,
c'est
non,
juste
on le voit plus.
Mais est-ce qu'il y a pas,
on entend sa voix.
Quand il y a l'éclair, est-ce qu'il y a pas la silhouette de Simba en termes d'éclair sur le nuage.
De Mufasa, ouais.
De Mufasa, il me semble bien.
Mais justement, ça marche une image, je trouve.
Mais c'est beaucoup moins clair. Et effectivement, du coup, ce qui marchait très bien, ce qui ne nous posait aucun problème en 94 avec le dessin animé, là, j'ai eu l'impression que Simba a effectivement changé de trajectoire beaucoup trop rapidement. Ce qui aurait pu être un problème, mais non. Ce n'est pas un problème puisqu'on a 25 minutes à rajouter. On peut développer ce retournement de situation. Bah non, on préfère suivre la petite boule de merde qui va jusqu'à Rafiki.
Ça vous a choqué, ça? Très bien. J'ai envie de me poser une question quand même. On ne sait toujours pas pourquoi les hyènes ne font pas partie du cycle de la vie. Pourquoi est-ce que... Un mot, il le dit, Mufasa fait oui, on mange des antilopes. Bon, c'est vrai. Mais nous, on va être transformés en herbe. Donc dans notre vie, on va manger, je ne sais pas, peut-être 500 antilopes, mais on va en nourrir au moins une qui va pouvoir mâcher trois bouchées de nos herbes. Pourquoi les hyènes ne font pas partie du cycle de la vie ? Marie.
Alors pour moi, c'est expliqué justement dans le film, quand il dit les hyènes n'ont pas de... Elles chassent sans restriction. Du coup, elles détruisent le cycle de la vie. Elles en font partie, mais elles ne sont pas raisonnables. Et là où Scar, je crois que c'est Scar qui dit que Mufasa, il a imposé des quotas, des quotas de chasse, font en sorte que l'équilibre est préservé. Qu'est-ce que t'en penses, Fiona ?
Non, je suis d'accord, c'est que justement, elles sont sans foi ni loi, et du coup, elles ne respectent pas, elles mangent plus que leur faim.
Oui, il va pas tous les tuer.
Elles tuent n'importe qui.
Elles tuent n'importe qui, elles cessent des charognards, et c'est pas exactement comme ça que fonctionne le cycle de la vie.
C'est les États-Unis qui sont comme 21.
Et non, mais surtout que là, ce film, alors que j'ai lu un peu une interview du réalisateur, il se veut un peu plus écolo. Apparemment, moi je l'ai pas vraiment vu dans le film, parce qu'il dit un peu plus que il est le roi, mais que c'est pas vraiment lui qui règne, c'est lui qui est là pour un rôle de protecteur. On est là pour le protéger, il faut protéger la nature. Mais ce rôle de protecteur,
ça marche pas mal, c'est vrai.
Ça marche, il le dit un peu plus, mais je trouve que Simba aussi aurait pu un peu plus le prendre en compte, et on aurait pu rajouter une scène sur la nature et sur le fait sur son rôle de protecteur, et ça aurait pu faire partie de son retournement de veste, outre le fait que Mufasa lui apparaisse, enfin sa voix, dans le ciel. Et juste, moi, par rapport au réalisme, je trouve qu'en fait, voilà, ce qui me dérange, c'est que ce film, tout le monde, il savait que ça allait être un carton. Parce que tout le monde, avant même d'avoir vu une seule bande-annonce, savait qu'il allait le voir. Parce que Le Roi Lion, c'est le film préféré, je pense, que le dessin animé préféré de quasiment tout le monde.
Moi, c'est Aladdin.
Oui, mais bon, il fait partie du top. Enfin, tout le monde, il savait que tout le monde allait le voir. Donc, les entrées, c'était réussi. Et donc, je trouve qu'ils auraient pu prendre un pari un peu plus audacieux, puisqu'en plus, ils savent qu'ils parlent à un public qui l'a déjà vu. Parce que même les enfants, ma petite cousine de 6 ans, elle l'a vu, Le Roi Lion 94. Donc, il touche aucun nouveau public, là. C'est que des habitués. Ils auraient pu prendre un pari plus audacieux en, je trouve, faisant un film muet.
Assumer totalement réaliste.
À fond le côté lion. Et on aurait vu des réactions. Il y aurait eu des ajustements à faire. Il y aurait eu du travail.
Il aurait fallu tout réécrire, là.
Ah,
bah oui. Bah oui, il y aurait eu du taf.
Il y aurait eu du travail. Mais nous, on aurait vu, juste avec les musiques, sans parole, voilà, juste des musiques africaines et comme façon documentaire. Le Roi Lion, quoi. Je trouve que ça aurait été au moins plus intéressant que bah, justement ce cul entre deux chaises, comme tu disais. Et ne serait-ce que pour les chansons, on voit bien qu'il y a eu un problème parce que dans les dessins animés, dans Je voudrais déjà être roi, Simba monte sur des girafes. Enfin,
c'est plein de choses. C'est complètement figuratif.
Voilà, comme plein de choses qu'on ne peut pas faire en réalité.
Il y a les piscards, il y a les hyènes en mode nazi devant lui.
C'est ça. Et là,
oui, ils peuvent se permettre. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ont voulu garder les chansons. Mais qui était faite pour dessiner ça.
Soyez prête, on sent qu'il y a un problème. Il saute de gauche à droite. Il y a eu un débat de qu'est-ce qu'on fait ? On la garde ? Non, c'est vraiment totalitariste et on pourra pas montrer cette image-là des hyènes en rang parce que c'est pas réaliste.
Oui, puis en plus, elles arrivent. Enfin, dans le dessin animé, elles sont par milliers.
Exactement. Oui. Mais on peut pas non plus supprimer la chanson parce que ça va faire hurler les fans si on coupe celle-là et pas les autres. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on la met à moitié. Il y a des parties prises à ce moment-là. Bah, faites à moitié sur toutes les chansons.
En parlant de ça, vous avez remarqué que dans le film, Scar découvre les hyènes. Il n'était pas pote avec eux.
Oui,
il les découvre
vrai.
Alors que dans le dessin animé. Et je me suis dit, ah tiens, ça peut-être changer quelque chose. Non, ça ne change rien.
Ce que j'ai aimé d'ailleurs par rapport aux hyènes, c'est qu'il y a vraiment une des trois qui était un petit peu plus valorisée dans le dessin animé, mais là qui l'est carrément, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Shandy.
Ouais. Elle devient vraiment presque la reine des hyènes en fait.
Je suis tellement déçue que ce ne soit pas Whoopi Goldberg qui ait repris son rôle. Bref.
Ah ouais, et c'était Mr Bean qui faisait la troisième hyène aussi.
Elle marche bien cette scène.
Oui, elle marche bien. Elle est plus terrifiante.
Voilà, elle fait vraiment flipper. C'est elle la boss. Elle est à coude à coude avec Scar sur le pouvoir. Quoi. Elle n'est pas du tout à sa botte finalement.
Mais justement, sur les personnages, peut-être qu'on peut parler aussi vite fait de Scar, justement, qui, je trouve, lui, est celui qui a peut-être le plus changé un peu de personnalité. Même s'il est. C'est toujours le même plot, mais on sent. Alors, peut-être joué aussi par ses mouvements et sa voix, mais dans le dessin animé, avec quelque chose d'un peu machiavélique à la Moriarty, enfin, je sais pas, quelque chose d'un peu flamboyant.
Très théâtral.
Très théâtral, oui, mais quelque chose d'un petit peu gay, qui lui donnait un style assez sympa. Là, je trouve que ce Scar était plus faiblard.
Il a l'air malade.
Il a l'air malade, quoi. Il a l'air. Alors,
c'était. Je trouvais qu'il était un peu maléfique déjà, enfin maléfique dans le sens.
Oui. Non, mais il avait l'air aussi malade dans le. Enfin, rachitique un peu.
Oui, c'est ça, voilà.
Mais il faisait moins malade. Là, il fait plus faible. On a l'impression qu'une petite pichenette, il va tomber.
Alors qu'il se bat bien, là.
Il se bat bien. Et ah oui, alors ça, pour le coup, bon, c'est encore visuel, mais le combat de fin est vraiment super pour le coup dans les flammes. Sauf problème encore de scénario pour le coup.
Oui.
C'est la révélation du secret. De Scar.
Ah, c'était tellement mal fait.
On dit quoi, pardon ? Mais comment tu as pu voir ? C'est une enquête, quoi. C'est Nala, détective privé.
Non, c'est pas Nala, c'est Sarabi. C'est Sarabi.
Autre problème, c'est Nala
qui
Sarabi.
Qui entend à 400 mètres la confession de Scar, qui dit oui, c'est moi qui ai tué.
Elle n'entend pas ça. Elle n'entend pas qu'il l'ait tué. Elle entend qu'il a dit oui, ça me rappelle le regard de ton père. Déjà, qui dit ça ? Quel mec sympa dirait ça à son neveu.
Mais c'est juste avant de le tuer.
Oui, c'est juste avant de le tuer, mais bon.
Ah, sa punchline, c'est l'erreur classique des méchants.
Alors que dans le dessin animé,
la relation complète, elle n'entend que la moitié.
C'est ça. Ou même s'il avait même jeté Simba du haut de la falaise, il aurait, elle aurait mis les morceaux aussi en tête. Enfin, elle n'avait pas besoin de la confession de Scar derrière. Alors que dans le dessin animé, Simba, bah, il lui fait sortir. Hein, il l'égorge à moitié. Il lui dit, répète ce que tu viens de dire, quoi.
Bon, on va terminer sur.
Attends, je voudrais juste demander. pour moi, l'espèce d'amourette entre Scar qui kiffe un peu Sarabi, pour moi, c'est un ajout là, de ce dessin animé, de ce film, parce que dans le dessin animé, ça n'y était pas du tout. Là, on sent quand même qu'il y a une compétition sur le fait qu'il il le dit dès le début à Mufasa, tu sais très bien que je respecte la reine. Et puis après, il lui demande de l'épouser, tout ça, et elle refuse.
Oui,
c'est un ajout.
Oui, mais c'est normal quand t'es le mâle dominant.
Ça marchait pas trop mal parce que justement, ça lui donnait un enjeu. C'est-à-dire que tu sens que peut-être il a eu cette cicatrice parce que c'est battu contre son propre frère pour cette meuf-là, il a perdu, et que là c'est un peu sa revanche. Moi c'est un peu comme ça que je l'interprète.
Oui, en tout cas c'est sûr qu'ils ont rajouté un duel un peu plus, on se dit pas que c'est que Mufasa et l'aîné, on se dit qu'il y a eu un duel entre les deux pour avoir le pouvoir.
Oui, mais comme l'autre est hiérarchique. D'ailleurs, chose qui était déjà dans la version de 94 et qui est encore là, on est bien d'accord que Simba se tape sa sœur à la fin du film.
Oui, parce qu'il y a qu'un seul mâle dominant.
Bah oui, mais Nala, c'est sa sœur.
Demi-sœur.
Ou c'est ça, pas le premier, sa demi-sœur. Au mieux, mais voilà, non, c'est les Lannister, ça vous gêne pas, quoi, qui règne à la fin. Bon, très bien. Bon, bah tour final sur ce film, Marie.
Ben, moi, je le recommande pour la prouesse technique, mais pas pour le scénario. Si vous voulez voir un bon film, une bonne tragédie shakespearienne, regardez le dessin animé de 1994.
Fiona.
Oui, pareil. Je vais pas. C'est beau à voir. Mais on reste sur le carreau et c'est vraiment dommage. Donc, je sais pas quoi en penser. Oui, donner un Oscar pour les prouesses techniques, mais c'est tout. Et oui, tu me demandes de montrer si j'ai des petits, des enfants entre les deux. Bah, j'hésite pas une seule seconde, quoi. Clairement, celui de 94, il est beaucoup plus fort. Et je reviens un peu aussi juste une seconde dessus. Ne serait-ce que dans le dessin animé de 94, justement, il y a une scène qui moi m'a beaucoup marqué où Scar appelle Sarabi, elle vient comme ça, très très digne devant les hyènes, devant tout, elle marche, et elle le compare à Mufasa, il veut pas entendre ce nom, et il la frappe, il la met au sol, vraiment, et c'est là où on entend le rugissement de Simba au loin qui arrive. Et cette scène est vraiment plus forte dans le dessin animé que dans le film. Dans le film, ils se battent à moitié parce qu'ils peuvent pas lui foutre une claque, ça marche pas. Mais du coup, on perd avec ça, et du coup, je trouve qu'il aurait fallu un parti pris plus osé.
Bah écoute, pareil, hein. C'est pas un mauvais film, hein. Ça respecte un scénario qu'on connaît tous, mais le fait d'être passé à hyper réalisme, bah, on perd en émotion, on perd en beaucoup de choses. Donc évidemment qu'il faut regarder la version 94, mais quand même gros point fort, je suis allé voir en français, moi je pensais que j'allais être saoulé par Jamel Debbouze qui m'avait plus ou moins gâché Toy Story 4. Eh ben, il est vraiment bon dans ce film, il en fait pas trop. On sent que la direction d'acteur, il y a un mec dans le studio qui a dû lui dire « on n'est pas à Canal+, là si tu pouvais te calmer », et ça fait du bien. Donc bravo Jamel pour cette interprétation. On enchaîne avec le coup du siècle. Et alors, ils sont mis à 4 pour écrire ça, c'est dire, hein. Il y a Stanley Shapiro, il y a Paul Henning, il y a Dan Lerner et Jack Schaefer. Et c'est Marie qui nous le pitch.
Penny est une arnaqueuse qui s'en prend aux hommes qu'elle estime bêtes et misogynes. Alors que ses petites arnaques commencent à être connues de la police, elle décide d'aller se mettre au vert dans le sud de la France, dans un village réputé pour ses habitants très fortunés. Sur le chemin, elle rencontre Joséphine, une autre arnaqueuse, mais à un niveau bien plus élevé et élaboré. Impressionnée, Penny lui demande de la former et elles deviennent donc complices. Mais la rivalité reprend vite le dessus. Elle se lance le défi d'être la première à arnaquer le jeune concepteur d'application, qui est supposé très riche, Tima Westberg. Mais Penny tombe rapidement amoureuse de lui, ce qui fait un petit peu capoter le plan.
Fiona.
Est-ce que vous êtes familier avec le concept des films d'avion ?
Oui.
Alors un film d'avion, pour ceux qui ne connaissent pas, pour moi c'est un film un peu nulos. Mais qui est vraiment juste là pour passer le temps de ton vol, que tu peux voir sur un écran tout pourri, puisque bon, c'est un film d'avion, quoi. Et tu peux en même temps lâcher un peu l'écran pour guetter si les hôtesses passent avec les plateaux repas. Et quand ce film a commencé, je me suis dit, bon, je suis clairement au cinéma en train de voir un film d'avion. Et plus ça avançait, plus je me suis dit, non, c'est pas un film d'avion. Parce que dans l'avion, je me voyais, moi, dans l'avion, en train de regarder ce film et revenir au menu pour changer. Tellement c'était mauvais. C'est un très mauvais film. Pourquoi ? Pourquoi c'est un très mauvais
film ? Pourquoi ?
Parce que c'est grossier. C'est pas drôle. Bon, ça, c'est de l'humour.
Allez, c'est subjectif.
C'est subjectif. Il y a plein de gars qui pourront vous faire rire plus ou moins, etc. J'espère moins que plus. On a une première partie qui n'a absolument ni queue ni tête pour obtenir... Enfin, une première partie. Une fois que, justement, comme tu disais, les deux fils s'allient. Qui est le plan de Joséphine, qu'on appelle Janet dans le film, je crois. Le plan de Janet pour virer Penny, c'est de l'embarquer avec elle pour faire des casses, enfin pour faire des coups, des arnaques, pour qu'après, finalement, elle ne soit pas payée et que du coup, elle se barre d'elle-même. Plan très aléatoire, alors qu'elle pourrait très bien, vu comment elle est arnaqueuse et vu qu'elle a un pied dans la police, je trouve la virer de manière beaucoup plus simple. Mais bref, la première partie, du coup, elles font une histoire de sœur folle dingue pour récupérer des bagues de fiançailles. Mais mon Dieu, c'est extrêmement compliqué et ça coûte beaucoup trop cher à faire et ça demande beaucoup trop d'investissement pour ce qu'elles veulent faire, puisqu'on l'a vu obtenir en 10 minutes un bracelet à 500 000 euros dans le début du film. Pourquoi ? Pourquoi elle passe par toute cette manigance, mais qui doit lui prendre des mois ? C'est... Les personnages sont débiles, voilà.
Surtout que tu remarqueras qu'ils pourraient toujours faire le même plan, parce que la première fois qu'on voit ce plan, on voit, excusez-moi, la personne légèrement
nippeuse,
Penny. Voilà, elle est enfermée dans une espèce de prison, de verre. Pourquoi ils ne refont pas toujours le même coup ? À chaque fois qu'ils refont le coup, c'est dans un décor différent, donc ça doit coûter encore plus cher à faire.
Oui, mais
Attends, avant de te donner la parole, je vais quand même dire du bien de ce film. J'ai beaucoup aimé la vanne au début où elle se déguise en sac poubelle.
Voilà.
Voilà, c'est tout. C'est la seule chose que j'aimais. Marie, je t'écoute.
Non, alors pour te répondre par rapport à la logique sur le fait que le coup est à chaque fois dans une pièce différente.
C'est un film.
Oui, non, mais l'arnaqueur, c'est aussi ça. Je veux dire, l'arnaqueur, d'ailleurs, ils en jouent. Ils disent, mais on privatise le Sacré-Cœur, c'est du grand délire. Bon, pour moi, ça parle un peu de ça aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est de l'arnaque à tellement au vol que voilà, c'est complètement fantasque, ça va loin. Pourquoi se donner autant de mal pour récupérer une bague ? Ok. Après, je suis d'accord sur le fait que le scénario, il pourrait être plus efficace. Déjà parce que on a deux héroïnes et moi j'aurais tendance à dire que l'héroïne principale c'est Penny et je pense qu'il faudrait rester avec elle pendant tout le film et pas faire des allers-retours avec Joséphine parce que elle c'est pas un personnage très intéressant en fait. C'est une grande arnaqueuse, elle a rien à prouver à personne, elle se démerde très bien toute seule. Quand tu dis Fiona, oui, au début tu la vois voler un bracelet en 2 minutes, mais en fait moi j'ai compris que ça faisait des mois qu'elles étaient dessus parce qu'il a fallu faire la réplique de ce bracelet, attendre que le mec arrive pour le vendre, enfin c'est quand même de la préparation.
Ça marque un point,
hein. Ouais, peut-être, mais il s'en félicite en une seconde. Ça a l'air d'être un
bien
bon,
sûr.
Allez,
non, oui, oui, non, mais je pense que voilà, c'est dommage de pas. Ça fait, enfin, il aurait fallu le faire un peu à la Ocean Eleven où ça demande beaucoup plus de taf. Après, une des remarques négatives aussi que j'ai par rapport à ce scénario, c'est que la gestion de la relation entre Penny et Joséphine est pas très bien foutue parce que elles se rencontrent, elles sont direct rivales. Après, elles s'associent. Et en fait, bon, Joséphine arnaque Penny pour s'en débarrasser. C'est vrai que ce plan est complètement aléatoire, c'est un peu foutraque. Après, elles sont de nouveau rivales et à la fin, elles s'associent encore. Donc, j'aurais aimé qu'il y ait une relation un peu plus progressive avec des surprises aussi. C'est-à-dire, on commence, Penny, c'est la. Direct, l'élève de Joséphine, évidemment, elle se ressemble pas du tout, ça tourne mal, nanana. Enfin, en tout cas, là, je pense que clairement, c'est trop long. Enfin, il y a un moment, c'est mal agencé.
Oui, Fiona.
Mais en fait, surtout qu'on arrive tout ça pour un duel, quoi. Un duel de braqueuses
qui arrive 45 minutes après le début du film.
45 minutes après le début du film, alors qu'effectivement, soit on part du principe de c'est mon élève et on fait un film sur l'élève braqueuse qui est nulle et qui est pas du tout faite pour ça.
Qu'est-ce qu'on se marre ?
Ou tu fais. Les deux rivales, ils disent, je t'avais dit que c'était Beaumont-sur-Mer, ça s'appelle Beaumont-sur-Mer, je crois.
Oui.
C'était mon endroit cet été, non, c'était moi. Ah oui, je trouve ça extrêmement bizarre qu'elle vive à Beaumont-sur-Mer. Qu'elle a l'air toute petite, je trouve que c'est...
Et elle arnaque les uns après les autres, voilà. Tous les mecs, et au bout d'un moment, elle va se faire griller.
En changement d'identité, enfin, à un moment, oui, je trouve ça absolument débile de dire que c'est chez elle. Je trouverais ça plus malin de dire, cet été, je t'ai dit que c'était mon spot.
Oui, voilà.
Et non, je t'ai dit que c'était mon spot, elles n'ont pas du tout les mêmes techniques, et elles ont dit, ok, ben on se bat. Très bien, dans ces cas-là, mais ça prend 4 minutes à installer. Et en plus, au moment où elles s'affrontent, du coup, Penny et Joséphine, alors qu'Anata Wey est en train de gagner, elle change elle-même les règles pour dire finalement on se bat plus, le but n'est plus d'arnaquer de 500 000 euros le petit geek, c'est de le séduire.
Oui, mais parce
qu'elle
voit bien.
Elle fait ça.
Je vais te le dire, elle voit parce qu'elle voit que Penny est tombée amoureuse d'elle, donc elle veut lui faire encore plus mal. De lui, pardon. Donc elle veut lui faire encore plus mal. Elle veut le battre sur son terrain de jeu et lui faire mal. Et comment ils en regardent, je vais coucher avec l'homme que t'aimes.
Ouais, mais bon, le petit geek, il a l'air d'être quand même assez en empathie avec Penny et de vraiment bien l'aimer. Donc je trouve qu'elle part sur un terrain perdant. Et tout ce qu'elle voulait.
Mais
elle
n'a
pas d'intérêt.
Tout
ce qu'elle voulait, c'est qu'elle se barre et gagne le pari. Je comprends pas. Elle a aucun intérêt.
T'as beau être amoureux de Penny, si t'as Anata Wey qui veut coucher avec toi, tu couches avec Anata Wey.
Mais tu vois, autre chose, voilà, sur ce plan aussi. Voilà, tout ça pour arriver à ce duel que je trouve lamentable et qui vient d'un autre temps. Vraiment, parce que là, on n'a pas le droit, vraiment, en 2019, de voir une fausse aveugle. C'est pas possible. C'est vraiment tellement désuet et c'est nul, quoi. C'est la base de rien. Enfin, c'est nul, faut pas le faire.
Mais Fiona, ce que tu ignores, et toi aussi sûrement Marie, c'est que j'ai fait mes petites recherches, hein, et j'ai regardé sur internet, et il se trouve que deux des scénaristes de ce film, à savoir Stanley Shapiro et Paul Henning, sont morts il y a 20 ans. Stanley Shapiro est mort en 1990 et pourtant ils ont quand même pris son scénario. Et Paul Henning est mort en 2006.
Tu sais pourquoi ? Parce que ce film,
parce qu'ils ont récupéré.
C'est un remake d'un film qui est lui-même le remake d'un autre film. Le premier film, c'est Les Séducteurs, et c'est américain, ça date de 1964. Donc Shapiro et Henning, c'est eux qui avaient écrit le scénario. Et après, en 1988, il y a eu un remake qui s'appelle Le plus escroc des deux, avec ces deux mecs-là, plus un troisième. Et donc, je pense que maintenant, on a un quatrième scénariste, du coup.
Du coup, ça veut dire qu'ils ont. J'ai pas vu les films d'avant. C'est-à-dire qu'ils ont pris cette blague qui devait très certainement marcher dans les années 70. Du faux aveugle.
Alors non, dans un des autres films, je crois qu'il n'est pas aveugle, mais il a un handicap. Je sais plus, il est peut-être en fauteuil roulant.
Vraiment, ça t'a pas choqué de voir ça à l'écran de nos jours, la fille qui fait « Ah, pardon, je ne vois pas. Ah, je suis rentrée dans quelque chose. » Mais mon Dieu, enfin, on est où là ? Pardon, moi, je trouve que c'était vraiment grotesque et outre le fait, bon, après voilà, ça peut faire rire. Moi, ça me fait pas rire du tout. Je trouve ça vu et déjà vu pour des aveugles. C'est drôle.
Excellent.
Mais je trouve ça, en plus, je trouve ça extrêmement sexiste, ce film, et grossophobe et vulgaire. Bon, ça vulgaire, bon, alors, c'est.
Je voudrais justement rebondir sur le traitement de la femme et des hommes et tout ça dans ce film.
Donc, parce que c'est un petit peu ta spécialité dans ce podcast. Hein.
Merci beaucoup de le reconnaître. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un film avec là où les deux films précédents c'était des films avec des hommes qui étaient des arnaqueurs et qui arnaquaient des femmes. Là, ils ont décidé de faire l'inverse, donc des femmes qui arnaquent des hommes. Et quand on part du personnage de Penny, vraiment, c'est elle qui nous raconte ça, que elle arnaque des mecs.
En fait, qu'ils sont déçus de la voir parce qu'elle ne ressent pas sa photo.
Non, laisse-moi finir. Elle arnaque des mecs quand elle les trouve
bêtes. Parce qu'elle leur a menti.
Quand elle les trouve bêtes, non, c'est pas quand ils sont déçus.
Si, elle explique très bien. Bon. Elle dit, je les arnaque quand au moment où ils me voient, ils font. Oh. Ouais. Oh non, okay. C'est à ce moment-là. Parce que comme dit Fiona, il leur a menti.
Elle a un moment un discours assez intéressant sur les mecs, ils voient de nous des meufs connes, ils pensent pouvoir nous utiliser. Et ben moi, j'utilise ça pour les utiliser eux-mêmes. J'ai trouvé que ça se tenait un petit peu, c'était pas mal foutu. Mais sauf que à la fin, j'étais extrêmement déçue par la fin. La fin m'a vraiment, j'étais.
Tu parles du twist final quand
très,
on apprend que Mark Zuckerberg est en fait lui-même un arnaqueur.
Elle se rend
compte. Attends, question. Est-ce que vous l'avez vu venir ?
Non.
Non ?
Non, mais par contre, je me demandais qui serait. Enfin, j'avais pensé en mode, il y a un Médusa, on va la voir arriver, et puis je l'ai oublié parce que je me suis complètement désintéressée.
Ah, mais non, parce que je me suis dit, c'est un film d'arnaque, dans un film d'arnaque, il y a toujours des twists finaux. Je lui dis, les deux sont en duel, évidemment que c'est lui.
Non, mais j'étais trop affligée pour réfléchir.
Bah, écoute, effectivement, moi, j'avais pas vu le fait que leur cible, ce mec-là, à la fin, c'est lui qui les arnaque.
J'ai oublié, un bon acteur.
Ouais, il jouait pas mal. Mais ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est qu'au moment où elles se rendent compte qu'elles se sont faites complètement berner par ce type-là, qui leur envoie un message pour leur dire « les plus faciles à arnaquer, en fait, ce sont les arnaqueurs. Mm-hmm. » Ah bon ? elles abandonnent. Elles abandonnent. C'est-à-dire qu'elles se disent « Ok, il a été plus fort que nous. » fin de l'histoire, en fait. Et c'est lui qui revient, on sait pas combien de temps plus tard, enfin si, 2 semaines, je crois. Il arrive 2 semaines plus tard, il arrive et il leur dit, au fait... bon, ok, je vous ai arnaqué, mais ça vous dirait pas qu'on monte une équipe tous les trois ? Moi, ce que j'aurais aimé,
c'est qu'on lui coupe la tête.
Non, mais c'est complètement con. Non, mais je trouve ça complètement con parce que moi, j'ai l'impression que leur intrigue se termine comme une queue de poisson. J'aurais aimé qu'elles se disent, ok, on s'est fait arnaquer. Eh ben, on va le retrouver, on l'arnaque, et puisqu'il a réussi à nous arnaquer, et putain, ben, on lui dit de venir dans notre groupe. Enfin voilà, qu'elle soit en fait proactive jusqu'au bout, qu'elle soit pas juste des victimes à la fin, et qu'elle se. En fait, à la fin, elles ne sont plus moteurs de l'intrigue. C'est lui qui revient, c'est lui qui. Enfin, elles deviennent presque des personnages secondaires de ce type-là.
Non, ça fait un trio à la fin.
Non, mais en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, hein. Mais j'ai rien aimé dans le film. Donc, je peux
oui, en précisant que Marie, t'es la seule à l'avoir aimé. Hein. On dirait pas quand même quand.
Mais du coup, je trouve quand même que quand tu dis que c'est passé. Enfin, moi, je trouve ça très sexiste parce que, au contraire. Enfin, oui, elle dit, elle ment aux hommes et ils sont déçus quand ils la voient. Ben oui. Enfin, c'est une arnaque aussi de base. Elle les a arnaqués. Quoi, ils ont pas le droit de pas aimer les grosses ?
Non, mais j'ai pas dit que c'était pas un film sexiste. Il y a des choses que
je trouve que tous les hommes sont montrés comme vraiment des abrutis. Sauf, voilà, en fait, en gros, c'est. Tous les hommes sont des gros cons qui pensent qu'avec leur bite. Les femmes, elles sont plus intelligentes que ça. mais qui est encore plus intelligente que les femmes, le petit geek.
Les moches.
Voilà, donc ouais, les geeks moches sont la race supérieure.
C'est vraiment pour ça que j'ai pas aimé cette fin. J'aurais aimé qu'elles aillent jusqu'au bout de leur message et de la morale du film pour dire on l'arnaque quand même. Enfin.
Elle vit à Beaumont-sur-Mer. Elle n'arnaque que les gens qui vivent là. Il est parti, c'est trop tard.
Mais au-delà
de ça. L'argument du sexisme, à un moment donné, on voit bien quand Anna Taoué séduit un mec, donc déjà elle dit qu'elle couche jamais avec eux, et puis elle séduit un mec, un politicien, qui lui dit j'ai hâte de vous ramener avec moi aux US, vous serez ma femme silencieuse pour m'accompagner partout.
Donc c'est bien sexiste envers les hommes, ils nous montrent que des hommes comme ça.
Oui,
on n'a jamais vu un qui dit. Oui, tu ressembles pas à ta photo, mais prenons un verre.
Ah, si, rappelle-toi, il y a le mec dans le casino qui dit tire-toi, tu me portes mauvaise chance, putain de française, et rase-toi sous les bras.
Ah oui, rase-toi sous les bras. Quoi. Et ça me ramène aussi à l'humour, donc là, vers la grossophobie, parce que oui, on sait que Rebel Wilson apparemment joue tout le temps ce personnage-là, mais je trouve pas ça bien, en fait, de montrer je suis grosse et je mange plein de burgers et je prends tout. C'est pas comme ça que tu luttes contre la grossophobie, en fait. C'est pas en
montrant... Parce qu'il faut lutter contre ça, tu penses?
Je pense un peu, mais bon...
Je vais pas m'engager sur ce... Mais
Marie, je vois pas ce qu'il y a de bien à montrer... Je suis une américaine, je suis une grosse américaine, et je mange plein de burgers, et dès qu'il y a à bouffer, je m'en fiche. Il pense la sauver, avec juste le moment où, Mark Zuckerberg, là, lui dit « Moi, je te trouve très belle, etc. »
Il est en train de l'arnaquer.
Et on sait, après, il l'arnaque, donc même ça, c'est faux. Et ils veulent nous faire croire qu'elle est touchante derrière en disant non, je peux pas lui voler parce que c'est tout ce qu'il a, etc. Parce qu'il lui a fait un compliment, parce qu'il lui a dit qu'elle était belle.
Ça doit pas lui arriver souvent.
Mais je trouve que par exemple, un film comme I Feel Pretty est beaucoup plus intéressant comme personnage.
J'aimerais savoir ce que tu as pensé de moi, la scène que j'ai trouvée la plus affligeante du film, qui est cette espèce de montage training avec la musique de Yale derrière, où elle lance des couteaux et on voit la grosse qui arrive pas à sauter par-dessus un obstacle.
Oui,
et là, on se marre, là, quand même.
Non, mais. Bon, moi j'aime beaucoup Rebel Wilson, c'est une actrice que j'affectionne particulièrement. Anna Taoué un peu moins parce que je trouve qu'elle casse pas l'écran, quoi. J'ai trouvé que c'était une scène assez classique de duo avec un maître et un élève.
Pour un entraînement qui ne sert à rien, parce que jamais elle se balade avec des couteaux.
Ça sert à rien.
Jamais elle joue le sport. Et surtout la scène, je crois la plus clichée de l'histoire du cinéma, où elle essaie d'ouvrir une bouteille de champagne là. Et le bouchon lui arrive dans la gueule. Et là,
tous les gars qui sont entendus, mais voilà, c'est un humour potache. Moi, je dois te dire quand même, j'ai trouvé ça lamentable, mais ça riait dans la salle.
Ça riait énormément dans la salle.
Alors, moi, j'aimerais parler d'un autre film qui s'appelle Les Flingueuses et qui est sorti en 2013 avec Sandra Bullock et Melissa McCarthy. C'est un film qui est aussi avec un duo féminin d'héroïnes, sauf que c'est un petit peu différent parce que ce sont deux flics qui doivent s'associer. Et t'en as une grosse, Melissa McCarthy, et l'autre très belle, très, très rigide, qui est Sandra Bullock. C'est exactement les mêmes stéréotypes que dans le film.
Je l'ai vu, oui. Celui avec le film où elle se plaint toujours du petit chien qui trouve jamais de la drogue, là.
Peut-être, je sais plus. Ce film-là, qui m'avait plu à l'époque, c'était quand même il y a plusieurs années, justement parce que il allait plus loin. La meuf qui est grosse, Melissa McCarthy, qui est en plus habillée comme un sac dans ce film, qui est vraiment la flic racaille, à chaque fois qu'elle va quelque part, il y a un mec qui arrive et qui lui dit « Ah, mais tu m'as jamais rappelé à une fois ?» Il y avait vraiment un inversement des rôles. Et Sandra Bullock, qui est toujours très belle et qui est dans un très bien habillé, impeccable et tout, c'est la frigide qui baisse jamais. Et ça marchait vachement bien parce qu'on allait à l'inverse de ce qu'on pouvait imaginer quand on voyait ces deux femmes arriver. Et dans ce film-là, ce que j'avais trouvé intéressant aussi dans Les Flingueuses, c'est que on parlait jamais du fait que ce soit des femmes flics, en fait. Ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était deux flics qui menaient leur enquête. Et le fait que ce soit des femmes, ça n'avait aucune place dans le scénario. Ça, j'avais vraiment bien aimé. Et finalement, peut-être que c'est ça qu'il aurait fallu faire dans Le Coup du siècle, faire de l'arnaque, mais sans mettre ce combat féministe et sexiste finalement au cœur. Faire juste un film d'arnaque avec deux personnages féminins et point barre.
Moi, si je peux citer
deux films. Ce sera le mot de la fin, Fiona.
Ouais, mais je vais citer deux films français aussi. L'Arnaqueur, on en a parlé un peu tout à l'heure. Moi, je trouve que ça n'a rien à voir parce que L'Arnaqueur, c'était chaque cliente était différente et donc chaque femme était. Ça montre aussi que chaque femme était différente et avait un. un âme sœur différent et qu'il fallait la séduire d'une façon différente. Ça expliquait pourquoi ça changeait de scène à chaque fois. Donc voilà, ça c'était pour la première chose. Et je trouve que l'arnaqueur était vraiment mieux réussi.
Et le deuxième film ?
Et le deuxième film, c'est Hors de Prix, où là, on jouait avec la séduction, on jouait avec les sexes, mais c'était beaucoup mené de manière beaucoup plus fine. Enfin, tout ça, ouais. Ce film, moi, ça me... Là, pareil, il y a les trois gonzesses de la boîte de nuit, là, qui viennent et qui jouent à la cour d'école en lui collant la main. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Enfin, il y a plein de... Pour moi, ça...
Petite à le majeur d'homme qui lui met le produit juste à côté d'elle pour pas qu'elle puisse le prendre.
Ouais. Hein ? Non, mais il y a plein de petits gags qui peuvent sûrement faire rire certaines personnes, mais il y a aucune... Ça ne tient aucune histoire. Voilà.
Bien, allez, arrêtons-nous là. Marie, tour final.
Oui, bah, c'est pas le meilleur film que j'ai vu, mais j'ai préféré ça au Roi Lion parce que peut-être il y avait plus d'intimité. Voilà.
Okay, donc Marie,
allez, pose ton micro, Marie, tu ne parleras plus jusqu'à la fin du podcast. Fiona. Donc,
oui, si vous préférez, au lieu de voir des lions animés à la perfection et de vous en prendre plein les yeux, voir Rebel Wilson glisser et se prendre un poteau entre les jambes, oui, allez voir comment ça s'appelle cette merde ? Le coup du siècle. Non, faut pas voir ça, c'est vraiment tout ce que je déteste, il n'y a pas d'histoire, parce que sous prétexte que c'est une comédie, on se fout de tout et je trouve ça vulgaire et c'est tout ce que je déteste dans les comédies américaines.
Mais écoute, j'ai trouvé... C'est même pas que c'est extrêmement mauvais, j'ai trouvé ça insignifiant. C'est-à-dire, comme je disais, c'est même pas un film d'avion. Si vous tombez dessus sur un avion, bah, le regardez même pas. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. On termine avec Wild Rose, écrit par Nicole Taylor, et c'est Sarah qui nous le pitch. Ah non, pardon, non, c'est moi. Roselyne est une jeune badass qui sort tout juste d'une prison de Glasgow pour une sombre histoire d'héroïne et décide de reprendre sa vie juste là où elle s'était arrêtée. Non pas en allant s'occuper de ses deux enfants, mais en allant s'envoyer en l'air avec le tocard du coin et en voulant reprendre sa place de chanteuse du seul groupe de country d'Europe. Oui, mais voilà, la carrière toute faite qu'elle s'est imaginée en sa tête est loin d'être un pavé de briques jaunes, puisqu'entre son bras électronique, ses enfants qui ne l'aiment pas, sa mère pète sec qui la juge et son boulot de femme de ménage, son rêve d'aller à Nashville n'a jamais semblé être aussi loin. Fiona.
Je trouve que globalement c'est un bon film, certes classique, hein, de l'évolution de le rêve ou la réalité, hein, globalement, c'est son dilemme permanent, mes enfants, ma vie de famille, enfin vie de famille, mes
c'est
enfants
le fantasme
mon,
versus,
voilà, versus
ma vie.
Ma vie actuelle et ce que j'ai à y gagner ou pas. Donc c'est extrêmement classique, en plus voilà la chanson, ouais, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce pitch, mais c'est... Je trouve que c'est très bien fait dans son genre.
Je trouve ça agréable.
Ouais,
aussi.
C'est agréable. Les comédiennes sont super. Enfin, tous les comédiens sont top. Je trouve que tous les personnages, et là, ça, c'est vraiment un gros point fort, je comprenais vraiment le point de vue de chaque personnage. Du petit garçon à la petite fille, de la mère. Vraiment, tous les personnages ont une trajectoire très claire et très propre, bien soignée. Les scènes sont jolies et touchantes. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur sur une scène, ça semblait très bête, mais où sa fille se lève pour boire de l'eau la nuit. Elle lui demande juste de... Elle fait la seule question, donc Rose lui pose juste comme question, il parle de quoi ton livre ? Lui répond juste une petite phrase comme ça. C'est juste un petit point d'intérêt pour sa fille. Et après, elle lui dit, bon, viens, je te raccompagne au lit. Elle la prend dans ses bras et sa fille la prend pour une fois, enfin la serre un peu plus fort dans ses bras et c'est un vrai câlin avec sa fille, c'est le premier moment qu'elle a et c'est assez touchant, voilà, c'est dans la finesse, je trouve ça assez joli, voilà.
Mais ce film nous présente un personnage que moi je comprends mieux que personne, c'est-à-dire un personnage enfant qui a pas envie de grandir, qui se dit bah moi, elle a encore l'impression d'être une ado de 14 ans en disant bah moi tout ce que je veux faire c'est j'allais dire m'envoyer en l'air, bon, un gamin de 14 ans, mais c'est réaliser mes rêves, j'ai pas envie de bosser, j'ai envie de faire ça, et puis je vais devenir une star. Sauf que, bah voilà, à force de faire des conneries, la première surprise du film, c'est qu'on découvre qu'elle a des gosses, quoi. C'est-à-dire qu'elle sort de prison, elle va voir un mec, comme j'ai dit dans mon pitch, elle couche avec lui au milieu de l'herbe, et ensuite elle va voir ses gosses, quoi. C'est même pas
et
la
première. C'est bien fait parce que je trouve qu'au début, on entend aussi le petit qui dit maman, et la petite, pendant une seconde, qui a 8 ans. Et comme Rose a l'air très jeune, on se dit, c'est sa sœur. Pendant tout un moment, il y a un petit parole, c'est sa petite sœur. Ah non, c'est sa fille aussi. C'est ses deux gamins. Et c'est vrai que c'est assez touchant.
Alors, il y a des défauts dans le film, parce que c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu trop long, par exemple. Au début, en plus, moi, je me suis dit, bon, bah, le vrai film va commencer quand elle sera à Nashville. Alors qu'en fait, c'est vrai que bah, c'était un fantasme. Donc, pendant un bout de temps, je me suis dit, mais pourquoi pas à Nashville ? Le film va démarrer quand ? Et pourtant, je trouve qu'il y a plein de petits moments, pas des scènes entières, mais des petits moments de scène que j'ai trouvé très bien fait. Typiquement, voilà, quand elle est, parce qu'elle trouve donc un boulot de femme de ménage chez une famille extrêmement riche, une bourgeoise qui a un très bon personnage, qui je trouve, comme tu dis, réagit très bien. Oh, tu lui demandes 5000 livres pour partir à Nashville. Il fait bah non, je vais pas te les filer comme ça, je te connais.
Mais attends,
je dis, et à un moment, elle lui dit, ça met à faire la. Ah, je vais y arriver. La propriétaire de la maison, la mère, lui dit est-ce que vous aimeriez des enfants? Elle dit ouais, mais pas tout de suite. Et là, je trouve ça. Ah, j'ai trouvé ce dialogue tellement bon.
Elle ment, et en plus,
dans le montage, ça coupe et ça passe juste après. Mais justement, on va arriver, pour moi, je trouve, le principal problème du film. Tous ces problèmes auraient pu être facilement évités. Pourquoi est-ce que tu mens? Elle va pas te virer, la propriétaire va pas te virer en disant oui, bah, j'ai deux enfants à la maison. En quoi, je comprends, elle se fout dans un problème noir où elle est obligée de prendre des choix, et on en parlera après. Je trouve que la scénariste a un petit peu abusé sur le fait que, oh là là, plus on approche de la fin, plus il faut vraiment qu'elle choisisse entre sa famille et son fantasme de devenir une chanteuse, même si sa carrière progresse doucement, mais elle progresse. Et puis arrive le climax du film où son fils, on sait pas comment d'ailleurs, se prend une étagère sur la tête, et donc en gros, je trouve ça grossier, enfin je trouve ça trop grosse ficelle, tu dois choisir entre.
Rester avec
ton fils qui est à l'hôpital.
Il a le bras cassé, hein, il est pas en train de mourir. Mais...
Non, il a pas le bras cassé. Il n'y a pas le bras cassé parce que le soir, elle rentre chez elle.
Il a une attelle.
Ah, peut-être. Parce que justement, moi, je trouve que la soirée, justement, où elle rentre à la maison, elle le prend dans ses bras comme ça.
Quand il a un bras cassé. Devant la mère, il a un plâtre.
Ok, bon, alors j'ai pas dû y faire attention. Mais tout ça pour dire que là, c'était un petit peu abusé. Et pourquoi tu n'as pas tout simplement dit à ta patronne, bah oui, j'ai deux gosses.
Bah, justement, je pense que c'est parce qu'elle-même, elle ne veut pas les voir, ces deux gosses. Comme dit sa mère, tu nies même leur existence parce que c'est tellement plus facile de se dire. Elle aime bien, je pense, cette vie.
Mais c'est pas en l'avouant, j'ai eu des enfants que ça règle tous tes problèmes. Elle fait, ah bon, bah, t'aurais pu.
Oui, non, c'est
pas grave.
Mais c'est un peu une métaphore. Mais
oui, non, mais je vois ce qu'ils ont essayé de faire. Je trouve que ça fonctionne pas totalement. Le dilemme, ils ont essayé de mettre un énorme dilemme sur la fin qui, je trouve, ne fonctionne pas totalement.
Oui, et puis même, il aurait suffi, même si elle veut pas avoir d'enfants, pas dire qu'elle a des enfants, suffisait de dire, quand elle dit je peux pas faire les répétitions, de dire bah non, j'ai ma mère qui est malade, je dois m'occuper d'elle, n'importe quel autre prétexte pour dire je ne peux pas répéter autant que je voudrais.
Oui, mais...
Moi, tout ce que je pensais, c'est pourquoi tu coupes pas ta semaine en deux? Pourquoi tu fais pas deux jours à la plage avec tes enfants et après tu vas répéter?
Moi, j'ai mieux. Amène tes enfants à la répétition.
Exactement.
Bon, d'accord, ils vont peut-être se faire un peu chier dans le bar toute la journée. Mais enfin, tu seras là, tu pourras venir la voir, tu pourras manger avec eux, tu pourras leur faire des guilis, des câlins. Et puis, t'es pas obligé de les abandonner chez tous tes voisins les uns après les autres. Ou t'as les gosses qui font « je te déteste », ainsi de suite. Il y avait des solutions plus simples. Elle se met un petit peu tout seule dans la merde.
On est d'accord, je trouve que, effectivement, c'est un peu long parce que ce dilemme donc, est bien tenu et permanent pendant tout le film. Mais du coup, il y a une petite sensation de répétition. C'est le même conflit, c'est le même dilemme qui revient et effectivement, il grandit. Mais du coup, bon, bah, on a compris, quoi. En revanche, oui, on parlait de la, donc elle s'appelle, je crois, Sylvana, ou je sais plus comment elle s'appelle.
La propriétaire.
Je vais l'appeler Sylvana, mais je suis pas tout à fait sûre.
Oui, j'ai oublié son prénom.
Que je trouve, j'aime beaucoup cette scène où elle lui demande de l'argent. Voilà, parce que la propriétaire lui a dit, ouais, tu chantes vachement bien. Et du coup, elle lui annonce clairement, elle dit, oui, bah, j'ai besoin d'aller à Nashville, bon, il me faudrait 2000 ou 3000 livres. Bon, peut-être 5000, mais pas plus, quoi. Et l'autre, elle fait, tu me demandes. Je crois pas que tu me demandes de l'argent, mais si tu me demandes de l'argent, je peux pas te donner de l'argent. Enfin, et l'autre, elle lui répond de manière assez brutale, dit ben si, et elle lui dit mais toi t'as qu'à, enfin en gros t'as qu'à boire de l'eau du robinet
pendant une semaine.
Pendant une semaine, parce que moi 5000 balles, je vais devoir passer, enfin je serai vieille quand je les aurai, quoi. Donc je trouve que c'est assez, elle lui met quand même bien dans la gueule, effectivement, cette facilité qu'elle aurait à lui donner ses 5000 balles.
Ah, mais en même temps, elle ne peut pas donner 5000 balles à n'importe
qui. Exactement, et en même temps, elle dit, bah non, je ne vais pas te donner 5000 balles, mais du coup, elle trouve un autre moyen d'aider.
C'est pour ça qu'elle est bien, ce personnage.
Et il est vraiment chouette.
Parce qu'elle l'aide vraiment, elle est vraiment sincère, elle est gentille. Et puis même le père, je trouve, est un personnage intéressant, parce que je l'ai compris, je trouve, il y a une scène où on montre que c'est un bon papa, où il va jouer au foot. Oui. Et puis quand il découvre qu'elle a vendu, enfin, elle a balancé de l'héroïne dans une prison, je le comprends, moi, qu'il a pas envie que cette meuf s'occupe de ça.
Tu finis ton concert, puis tu te casses comme ça. Ma femme est pas déçue.
Exactement.
Toi, t'as ce que tu veux, et puis on se revoit plus. Non, il est plutôt bien traité. Je te dis, tous les personnages ont leur ligne et bien foutu. Peut-être c'est ça qui me manque un peu dans le un an après. On voit que à son concert, il y a la petite famille bourgeoise et tout ça.
Qui n'ont pas vieilli d'ailleurs.
Mais aucun des enfants.
Personne n'a vieilli.
Un an plus tard, alors que normalement, à cet âge-là,
ça grandit vite.
Bon, c'est pas très grave.
Il m'a
peut-être manqué une petite scène de réconciliation. J'aurais bien voulu la voir.
On sous-entend qu'elle a dû qu'elle est arrivée.
Oui, mais j'aurais bien voulu la voir. Ça m'aurait intéressé de la voir.
Voilà. Et on va arriver, pour moi, je trouve la meilleure partie du film, c'est quand elle arrive à Nashville, quoi. Et c'est vraiment, t'as voulu ton fantasme, t'y vas, et dès la première scène, je la trouve superbe, où il y a le taxi qui l'amène à l'hôtel, où elle se dit c'est bon, je vais commencer ma carrière, le taxi ouvre son coffre, et lui-même il vend des CD de country. Quoi. Et elle lui dit, tout le monde est tente sa chance ici, la serveuse lui dit, quand est-ce qu'on monte sur scène? Mais il y a des gens d'Allemagne, de Nouvelle-Zélande, tu n'y arriveras pas.
Moi je trouve ça bien, mais je trouve ça un peu trop appuyé aussi.
Ah mais non, non je trouve il fallait l'étouffer. Tu vois, si les Américaines étaient là, elles nous diraient que bah, Los Angeles, c'est un peu ça. Quoi. Tout le monde a une idée, tout le monde veut devenir acteur, scénariste, producteur, tout le monde veut faire ça. Et là, justement, c'est peut-être un peu forcé, mais je pense que c'est tu vis ça à Nashville. Ouais. Tout le monde va t'en désirer. Et justement, moi, je me disais, mais pendant tout le film, je me dis, mais pourquoi tu veux aller à Nashville? Tu as zéro concurrence là où tu es.
Oui, c'est ça, et c'est ça qu'elle va comprendre.
Et pendant tout le film, je me dis, mais non, justement.
Et d'ailleurs, le mec de la BBC lui a dit.
Il lui dit dès le début, il lui dit, tu peux être. Personne ne fait la country. En Écosse, enfin, t'es la seule d'Europe, Glasgow, quasiment. Ouais. Donc fais-le et t'arriveras forcément. Et c'est ça sa porte d'entrée. Elle a de la chance, en fait, d'être écossaise et de faire ça. Et c'est finalement.
Et donc, c'est pour ça que la chanson de fin est chouette. Parce que
alors, on va en parler de la chanson de fin, là, justement. Là, je trouve que moi, ça, c'est aussi un problème parce que justement, le Bob, là, le mec de la radio, lui dit. Ouais, écoute, pour écrire des belles chansons, il faut te sortir les tripes.
Oui,
il faut vraiment que tu ailles au fond de toi et que tu sortes. Qu'est-ce que tu as envie de dire, sachant que c'est quoi ? Ah, qu'on est bien chez soi.
Oui, mais c'est un peu les paroles de country, je pense que.
Je vais pas. Non, mais... je suis pas contre ça. Moi, j'adore être chez moi aussi. Mais enfin, pour une dernière chanson.
Je pense que pour elle, moi, au contraire, je vois plutôt un message qui paraît simpliste. Et en fait, ben non, on est bien chez soi parce que du coup, je peux avoir chez soi le foyer, la maison, et aussi ben. En tant que chanteuse, qu'est-ce qu'on est bien chez moi, chez soi.
Ouais, mais c'est un tremplin. Enfin, pour moi, c'est un tremplin.
C'est un tremplin. Mais c'est...
L'Écosse est un tremplin pour elle. Enfin, va pas... Si elle a du succès, elle s'arrêtera pas là. Enfin, c'est mon avis. Mais... c'est aussi, oui, en prison, elle aurait pu écrire des chansons et apprendre la guitare. Hein, parce que là, il y a une ellipse d'un an. Ah, quoi qu'elle le dit, quand elle commence à jouer la guitare, elle fait excusez-moi. Bon, elle dit je vais peut-être pas jouer très bien. Puis, comme elle dit elle-même, en country, il y a que trois accords.
Oui, c'est ça.
Et la vérité. Oui, pour en revenir aussi sur la partie de Nashville. J'ai adoré la scène justement où il contourne le cliché de. Elle visite le studio et puis elle voit un micro et elle y va. Et là, tu chantes, il y a un mec qui commence à jouer du violon et tu vois deux hommes qui arrivent, tu dis oh, c'est des producteurs, c'est comme ça qu'il va redémarrer. Cut, elle est dans la rue, il y a un mec qui fait c'est où sa vie, à chaque circuit, il y en a une qui fait ça.
Mais je trouvais ça. C'est
vraiment très bon.
Après, il lui dit j'ai peut-être une nana, oui. Il est sympa, il lui donne un petit tips pour peut-être. Moi, j'aurais enlevé ce tips, quoi.
Effectivement. On aurait pu l'enlever, mais.
Ou un tips un peu moins, encore moins bon, quoi. Je connais un petit club, je peux te mettre sur la file d'attente, tu vois.
C'est ce que disait la serveuse. Tu sais, tout le monde est dans le métier, donc tout le monde
connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un,
et ça va être très très long, quoi. Donc moi, toute la partie à Nashville, qui est pas longue, qui doit durer 10 minutes, j'ai trouvé vraiment, vraiment très bonne.
Mais
c'était vraiment la meilleure partie.
Au début, je me suis dit, c'est peut-être un peu quand elle retrouve sa vie rangée, où elle accepte de travailler dans le même. Centre commercial que sa mère, et que sa mère la voit faire ce qu'elle voulait, c'est-à-dire être responsable, quoi. Mm-hmm. Elle travaille, elle s'occupe bien de ses gosses, etc., et que sa mère lui dise t'es pas heureuse, quoi.
C'est ça, on va en venir justement à la fin de ce film. Je trouve que quel est le message de ce film? Alors, de un, n'ayez pas de gosses, hein, clairement.
Non, le message de film, au contraire, c'est on peut tout avoir.
Non, et le film, c'est avant de fantasmer et de faire tout ça, pense d'abord aux autres, pense d'abord à être responsable, à t'occuper de ce qui est vital, et ensuite tu pourras t'occuper de ta carrière. Je pense que c'est pas ça. C'est occupe-toi d'abord de tes enfants, et la grand-mère lui donne la solution à son rêve une fois qu'elle est devenue responsable.
Oui, c'est vrai. Mais pour moi, le message est plutôt on peut tout avoir. C'est ce qu'elle lui dit sur la pharmacie aussi, qu'elle voulait être pharmacienne et qu'elle a juste pas eu le cran, qu'elle a un peu lâché. Il faut juste faut en vouloir et en gros, faut s'organiser. Faut gérer, faut savoir. Moi, ça veut dire si on s'organise bien, si on se débrouille bien et qu'on le veut vraiment, on peut tout avoir.
Et puis en plus,
la famille, la carrière.
Elle fait du country, elle peut écrire ses chansons en rentrant le boulot de soir.
Du
country western. et puis elle peut avoir un boulot et puis ensuite chanter le soir. Hein. On va s'arrêter là. Une dernière scène que j'ai adorée, c'est la scène où elle arrive à se faire enlever son bracelet électronique. Et c'est la première fois qu'elle peut retourner dans le bar le soir. Elle vient avec son avocat et donc il y a un mec qui lui a piqué son groupe et elle monte sur scène, elle le dégage. Et je trouve qu'il y a une énergie dans cette scène que j'ai vraiment adorée. Donc oui, très bonne surprise ce film. Tour final, Fiona.
Oui, je le recommande. C'est pas révolutionnaire. Ce sera pas mes films phares, mais ça fait pas de mal du tout à voir. C'est plutôt bien fait. C'est
un bon film d'avion.
Là, c'est un bon film d'avion. Mais là, même plus qu'un film d'avion, c'est mieux que ça. Et par contre, ils l'ont très mal commercialisé parce qu'ils nous le mettent en disant c'est quoi le nouveau Star Is Born.
Oubliez Star Is Born.
Ah bah oui, vous pouvez l'oublier parce qu'effectivement, Star Is Born n'a aucun conflit. Elle, sa vie n'est que conflit.
Ça n'a rien à voir.
Rien à voir, voilà. C'est juste qu'il y a une chanson en fait à la base.
Oui,
c'est juste une fille qui veut devenir chanteuse. C'est tout.
Cela dit, c'est 20 fois mieux que Star Is Born, qui est une merde. Hein,
vraiment,
on le répète.
Vraiment 20 fois mieux.
Et je résumerai le film. Malheureusement, c'est la musique country, du country western que j'aime pas. Et le film commence. La première réplique, c'est un gardien de prison qui dit tu es venu me faire vraiment chier avec ta musique country. Ce qui est pas faux quand même.
On sent, je trouve que l'autrice et le réalisateur aiment vraiment la musique country. On sent qu'il y a une passion qui est... Enfin, le choix est pas là pour rien et qu'ils nous font un peu, je trouve, passer justement cette passion pour cette musique et justement dans la scène que tu citais.
Petite question avant de passer aux recommandations. Qu'est-ce que tu penses de Parasite maintenant, là, que plus semaine après semaine, est-ce que tu
l'as déjà
vu ? Non, toujours
c'est,
pareil.
C'est revenu, voilà. C'est pas mal.
Ça sera notre fil rouge, fil rouge de cette année.
C'est quand même bien Parasite.
On passe aux recommandations de la semaine, Marie.
Alors moi, j'aimerais recommander Saïra, fin de Louis, qui est une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Joël Pommerat et qui est à l'affiche en ce moment à Paris. Qui est régulièrement mise en scène. Ça parle de la Révolution française et même si ça dure 4h30, je peux vous assurer que vous ne voyez pas le temps passer et c'est absolument fantastique. Voilà, j'ai adoré.
Ok, Fiona.
Bon, moi, je vais être pas très originale. Je vais recommander, et uniquement pour les fans, on va dire, la troisième, enfin non, pas forcément que pour les fans, la troisième saison de Stranger Things, que j'ai trouvé pas mal. C'est pas révolutionnaire, mais... on aime bien se replonger dedans, c'est le même code, c'est un peu du déjà vu, mais t'as quand même envie de regarder l'épisode suivant, donc pour l'été, c'est très bien.
Alors, personnellement, moi, Stranger Things, la saison 3, j'ai trouvé catastrophique, mais j'ai adoré le dernier épisode. Donc rien que pour le dernier épisode, ça vaut peut-être le coup de regarder toute la série, en accéléré, comme j'ai fait. Moi, je vais vous recommander un jeu vidéo, pour changer, que j'ai enfin fini, qui était sorti en 2009, et qui s'appelle Monkey Island 5.
Attends, t'as mis toutes ces années à le finir, ou qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, je l'avais commencé il y a 10 ans, et j'ai arrêté, je ne sais plus pourquoi, et là, je l'ai repris, et je l'ai fini, et Monkey Island 5 est une histoire d'amour incroyable, c'est le point and click des années 80 par excellence. C'est bizarrement le moins bon de la saga. Et pourtant, c'est un excellent jeu. C'est pour dire à quel point cette saga est merveilleuse. Là, c'est un format épisodique, parce que c'était l'époque avec les Telltale Games. L'histoire, c'est le Chuck qui maintenant redevient humain, et donc du coup, bah, il nous concurrence pour le mariage d'Hélène. L'humour est toujours là, l'aventure est toujours là, les énigmes sont toujours aussi barrées. Ce jeu est excellent. Achetez-le, il doit coûter une misère maintenant qu'il est sorti il y a 10 ans. Et donc maintenant, j'attends officiellement, depuis une semaine, mais en fait depuis 10 ans, Monkey Island 6. Donc en espérant qu'il sorte un jour, mais il y a quand même peu de chance. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez nous écrire sur le Facebook de C'est quoi le pitch. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour la dernière de la saison. À bientôt.
Yes, look at us hanging out again. This is amazing. This is awesome. This is... Guys, tonight is gonna be legend. Wait for it. Dairy! Legendary! Guys, the gang is back! We're back!